Direct en jeu, la radio insolite, des gens de talent, des gens de qualité, c'est ce qu'on aime accueillir sur l'antenne. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir, j'allais dire une grande dame, quand même, hein, Anne Richard. Alors, vous la connaissez sans la connaître. Si je vous dis Anne Richard, vous allez dire, c'est qui? Si vous la voyez en photo, ou si vous la rencontrez, tout de suite vous citez, parce qu'elle a une carrière. Comment vous présentez Anne? Bonjour Anne.
Bonjour, merci de votre invitation. Je m'appelle Anne Richard et les gens me connaissent beaucoup grâce à la série Boulevard du Palais que j'ai faite pendant plus de 17 ans sur France Télévisions, sur France 2, entre autres. Mais moi, je suis plutôt une actrice qui a fait une grande partie de sa carrière à la télévision, qui a eu beaucoup de chance d'incarner beaucoup de magnifiques rôles. Et puis, j'ai eu envie de revenir au théâtre. Ça faisait des années que je me disais, il faut que tu joues plus souvent au théâtre. Mmh. Et donc, depuis la fin de Boulevard du Palais, j'œuvre pour me retrouver sur les planches. Et je pourrais résumer comme ça en quelques mots.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce métier?
Alors, je pense qu'à la base, c'est vraiment ma maman qui m'a mis devant un sapin de Noël avec des scénettes à jouer avec mon frère.
D'accord.
Je pense que tout a commencé comme ça. Et ma maman nous écrivait des scénettes. Après, elle faisait des adaptations théâtrales que je jouais à l'école. Mm-hmm. Donc, je pense que la jeunesse, c'est ça. Mais après, il y a eu un très grand modèle qui était... J'étais une immense fan, une midinette absolue de Claude François.
Oui, mais c'est de la chance, Claude François.
Hein?
C'est de la chanson, Claude François.
J'ai pas compris ce que vous m'avez dit.
C'est de la chanson, Claude François.
Oui, c'est vrai, c'est de la chanson.
Donc vous êtes bien chanté.
Pas du tout. Je voulais, j'avais des posters plein ma chambre et je voulais faire comme lui, transmettre des émotions, amener du bonheur aux gens et les faire rêver. J'ai jamais voulu chanter parce que c'était pas du tout mon truc, mais je savais que je voulais être une passeuse d'émotions comme lui l'était. Une passeuse d'énergie, une passeuse de rêve. Et donc, comme j'avais déjà découvert un peu le théâtre, je voulais donc faire ce métier, faire comme lui à Paris, offrir du bonheur aux gens. Voilà.
D'accord. En plus, vous avez toute une carrière dans le domaine du doublage, dans le domaine des livres audio qui sont assez importants. Vous avez fait des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire.
Alors oui, doublage, non, je n'ai pas beaucoup fait en fait. C'est pas du tout, mais plutôt j'ai découvert en fait le plaisir de l'écriture. Et c'est comme ça que je suis venue à écrire des contes pour enfants et à les raconter. Donc j'ai commencé à faire des concerts. On m'a demandé un jour d'écrire quelque chose parce que le chef Blaise Héritier, qui est un chef suisse, voulait compléter son concert. Il y avait Pierre et le Loup à raconter. Il voulait compléter avec une musique qu'il avait choisie. Puis il dit, je cherche quelqu'un. Et mon frère qui travaillait avec moi m'a dit, mais Anne, tu devrais essayer. J'ai m'y suis essayé. Et puis, ça a fait un concert, deux concerts, trois concerts. Et puis, une quinzaine de contes, que j'ai transformé en livre CD que je raconte. Après, j'ai travaillé avec ma compositrice, Maryse Bonnet. On a créé ce petit objet de livre CD pour les enfants. Et j'adore faire ça. C'est vraiment, je dirais, oui, une voie complémentaire de celle de mon métier. C'est plus la voie de l'écriture et du récit, en fait. Voilà.
D'accord. Là, on vous retrouve à la Comédie Bastille depuis début septembre pour une pièce de théâtre qui s'appelle Rentrée 42, Bienvenue les enfants.
Oui, alors ça fait partie donc des projets que je souhaitais faire. Donc, on joue cette pièce. Quand j'ai reçu la pièce, Pierre-Olivier Scrotto, l'auteur, et Xavier Lemaire me l'ont proposé. Pierre-Olivier, ça faisait un moment qu'on se tournait autour parce que je devais faire une pièce avec lui qui ne s'était pas faite. Et puis, ils me l'ont proposé et ça a été un véritable choc quand je l'ai découverte. Je me suis dit, waouh, mais jamais je n'avais pensé à ça. C'est-à-dire que ça se passe, je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été et en octobre, évidemment, rentrée scolaire 1942, après la rafle du Veldiv. Nous sommes dans une petite école du 11e arrondissement de Paris. Je fais la directrice de l'école. On prépare la rentrée scolaire avec mes institutrices, notre concierge. Et donc, on est en période d'occupation. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir 120 élèves, on n'en a que 16 qui arrivent. Et donc, c'est cette prise de conscience de ce qui s'est passé pendant juillet 1942, nos conflits entre les résistantes, les pétainistes, et puis notre révolte contre l'éducation nationale. Et ce choc de savoir ce point de vue de l'absence, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question comment ils avaient fait avec ces écoles vides, comment ils avaient fait avec ces appartements vides, avec ces rues vides, vidées de leurs habitants. Et Pierre-Olivier s'est inspiré beaucoup de ces plaques qu'il y a sur toutes les écoles dans Paris où il y a le nombre d'enfants qui ont été raflés. Voilà, donc c'est une pièce assez bouleversante par cette prise de conscience.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça paraît être une histoire vraie, c'est-à-dire que ce n'est pas inventé, c'est vraiment ce qui s'est passé durant l'été 42.
Oui, c'est vraiment, Pierre-Olivier est très doué pour ça, il est très spécialiste dans tout ce qui est histoire, et donc il s'est inspiré de la vraie vie, il s'est aussi inspiré de la vraie vie de son propre papa qui était directeur d'école, donc il a vécu en tant qu'enfant dans une école. Donc, il s'est vraiment inspiré de ce qui s'est vraiment passé. Alors, bien sûr, c'est une fiction parce que nos personnages sont des personnages de fiction. Ils sont assez typés, je dirais, caractérisés avec celle qui est la pétainiste, la résistante, celle qui ne veut pas trop voir, mais qui fait quand même un peu de marché noir. Et puis, mon personnage qui essaye de rester dans une neutralité avec son secret qu'elle cache en elle. Et je trouve que les personnages sont bien plantés et peuvent tout à fait correspondre à des femmes de 1942.
En plus, ce qui est bien, c'est que c'est très pédagogique comme spectacle. Ça paraît vraiment, comment dire, parler de ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est intéressant quand même, parce que quand on sort de là, on a l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir découvert un autre pan de ces périodes-là.
Waouh, c'est un beau compliment. Je dirais ça à Pierre-Olivier et à Xavier. Je trouve que c'est un très beau compliment de se dire que non seulement on fait parce que ça reste un divertissement, hein, ça reste du spectacle, mais en plus si on peut apprendre quelque chose, c'est merveilleux. Alors bien sûr, c'est éducatif, bien sûr pour les jeunes, on va faire des scolaires avec les instituteurs qui vont aider les jeunes à comprendre toute cette période. J'espère que non seulement ça va être éducatif, mais aussi une prise de conscience qu'il ne faut surtout pas que ça recommence.
Ça ne fait pas peur d'aborder un sujet comme ça? Parce qu'il y a toujours une hésitation quand on est de parler de cette période un peu noire du XXe siècle.
Alors, je ne sais pas si ça fait peur, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, le théâtre et les films ont beaucoup utilisé la guerre. Ils sont vecteurs d'imaginaire, ils sont vecteurs d'émotions fortes. Il y en a énormément. On a eu des grands chefs-d'œuvre au cinéma qui ont parlé de cette période de 39-45. Là, je dirais que on a commencé à faire cette pièce en 2023. C'était une pièce d'histoire. Et aujourd'hui, en 2024, c'est une pièce d'actualité. Donc, c'est ça qui a un peu basculé, c'est vrai, depuis ce qui se passe aujourd'hui en France. Un peu l'antisémitisme qui remonte un peu. Avec le conflit israélo-palestinien, il y a quelque chose qui se tend. Mais nous, on reste, je dirais, dans cette période-là, et surtout, c'est pas seulement une pièce. Je sais pas si vous l'avez, comme vous l'avez vu, mais je crois que c'est pas seulement une pièce triste ou je dirais émotionnelle. C'est aussi une pièce pleine d'humour. C'est la force des auteurs. C'est d'arriver à faire qu'on rit beaucoup aussi. Et c'est vraiment un divertissement aussi.
Et puis moi, je trouve qu'elle est bien ancrée en 2024, parce qu'elle elle est toujours d'actualité. On ne parle pas de la rentrée 42, mais on peut parler de ce qui se passe dans les écoles. C'est ça qui est bien, quand même. Elle est vraiment d'avant-garde.
Oui, et puis ce discours, je ne vais pas tout raconter, mais de l'inspecteur de l'éducation nationale, de cette collaboration pétainiste, pour certains, peut-être que c'est une prise de conscience, même si on le sait, mais on ne veut pas trop se le dire, combien l'État pétainiste a collaboré. Ça, c'est vraiment un gros choc, et tout le discours de l'inspecteur de l'éducation nationale fait frémir, parce que évidemment il y a des mots, des phrases qui font écho avec certains dirigeants politiques d'aujourd'hui.
D'accord. Alors, en plus, quand même, le spectacle a eu la palme du meilleur spectacle du Festival of d'Avignon 2023. C'est une belle reconnaissance quand même.
Oh, c'est incroyable. Quand on l'a reçu, j'ai pleuré comme une madeleine. Ça m'a beaucoup émue. Oui, c'est une très belle reconnaissance du travail et c'est un vrai encouragement pour les producteurs aussi. C'est vraiment bien. C'est vrai que ce 2023, de recevoir ce prix, moi, je m'y attendais pas du tout. Ça encourage à continuer, à se battre pour le faire revenir sur Paris, parce que c'est jamais simple, hein, un spectacle comme ça aujourd'hui pour créer un spectacle, en tournée, ensuite revenir à Paris. Et puis, ça permet aussi pour Avignon, quand vous faites une deuxième année, parce qu'on a fait 2023 et 2024, eh bien, vous remplissez la salle beaucoup plus facilement, bien sûr, avec
Tout
ce
à fait.
label. C'est comme pour ceux qui reçoivent des Molières pour un spectacle. Économiquement, c'est merveilleux parce que ça aide le spectacle à le mettre en avant.
Alors, dans les infos que j'ai été chercher, j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression que vous jouez 3 fois par jour hein, et je ne sais combien de jours, à 17h, 19h, 21h.
Oh non, pas du tout. Alors, c'est une erreur. Non, non. C'est-à-dire que la Comédie Bastique est un très, très joli lieu, vraiment un joli petit théâtre, est très riche en programmation. Christophe Segura tient à cette richesse de programmation. Et comme beaucoup de théâtres, aujourd'hui, il y a toujours deux programmations par jour et parfois même trois ou quatre. En week-end, ça peut aller jusqu'à quatre pièces différentes. Donc, en fait, nous, on joue alors sur des horaires multiples. Le mercredi à 19h, le jeudi à 21h, le vendredi de nouveau à 19h, le samedi à 21h et le dimanche à 17h. Mais pas tout dans la même journée quand même. Déjà, une fois, ça suffit par jour. Des fois, ça peut nous arriver de faire deux spectacles par jour. Mais une fois, franchement, émotionnellement, c'est déjà pas mal fatigant et ça suffit. Mais c'est bien, cette variété d'horaires. Maintenant, il ne faut pas que le spectateur se perde. Mais il peut plus se perdre, le spectateur, puisqu'il achète essentiellement ses places sur
Exact.
Internet. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'avant.
Et puis, je précise, le repos, c'est le lundi et le mardi. Là, au repos, on fait dodo, on profite, on se détend.
Alors, on fait dodo, c'est un grand mot, hein, parce qu'on a plein d'autres, souvent, activités à côté. Moi, je m'arrête pas trop parce que j'enseigne aussi dans une école de comédie musicale où je dirige la section théâtre. Donc, j'enseigne. Je suis en train d'écrire une comédie musicale. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'activités. Donc, je pensais pouvoir me reposer. Oui, peut-être le soir. Voilà, je m'autorise le fait de pouvoir me reposer le soir. Mais c'est merveilleux d'avoir plein. Moi, j'essaie d'élargir mon champ d'action en tant qu'actrice et de faire plein de choses, d'être initiatrice aussi de projets. Donc, ça remplit bien les journées.
D'accord, ben ça va, c'est déjà pas mal. Où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur la pièce, sur vous?
Pardon?
Où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur la pièce? Peut-être
Ah
sur le
ben les
site internet
informations.
de la Comédie Bastille?
Oui, exactement. Vous pouvez retrouver sur tous les réseaux, c'est-à-dire sur le réseau de la Comédie Bastille, sur le réseau de la compagnie Les Larrons, de Xavier Lemaire, sur tous nos Instagram, de tous mes partenaires. On a tous des Instagram. Donc, dans l'équipe, il y a Isabelle et André Annie, Émilie Chevrillon, Fanny Lucet, Dominique Thomas et Michel Daliberté. Voilà, et à la mise en scène Xavier Lemaire.
D'accord. Bah écoutez, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire découvrir tout cela.
Ben, c'est avec grand plaisir.
En tout cas, ça donne envie de venir voir parce que c'est ce que j'appelle le type de spectacle intelligent où on sort en ayant découvert des choses. Plein de bonnes choses pour votre continuation, puis au plaisir de vous croiser.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.